Rencontre avec Nathalie Lefèvre, l'émission consacrée à la découverte de personnalités inspirantes.
Bonjour mes très chers auditeurs, absolument ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de notre émission Rencontre. Aujourd'hui, c'est une femme à la fois de caractère, de charisme et de beauté que l'on reçoit dans ce studio. Elle est l'auteure d'un ouvrage sur l'EFT, Un seul point pour tout soigner. Bonjour Sarah Frachon.
Bonjour.
Alors, je suis ravie de te recevoir. Si tu le permets, je vais te tutoyer pendant cette émission.
C'est beaucoup plus confortable.
Alors, chère Sarah, tu n'es pas venue toute seule puisque une journaliste t'a aidé à écrire cet ouvrage. Elle est présente dans ce studio. J'ai voulu aussi qu'on lui donne un micro si elle avait envie d'intervenir tout au long de cette émission. Elle est la directrice d'un média qui promeut des thérapeutes et des gens qui font changer le monde. Ça s'appelle Madame Bien-être. Bonjour Stéphanie Zetoun.
Bonjour.
Alors tu es la sœur de Karine qu'on a reçue. Donc si les auditeurs replacent le contexte, Karine qui est une chamane qui était venue à plusieurs reprises sur cette antenne. Donc toi tu es journaliste et tu aides des auteurs, c'est ce que tu disais à travers l'idée de prête-moi ta plume. Tu prêtes ta plume aux auteurs pour qu'ils puissent publier des ouvrages.
Voilà, en fait je suis journaliste et écrivain et j'accompagne aussi des auteurs dans le cadre de rédaction de leurs livres. Donc surtout des guides pratiques dédiés au bien-être et développement personnel.
Donc tu as prêté ta plume pour cet ouvrage qui est disponible aux éditions Le Courrier du Livre. Alors Sarah, j'ai envie de savoir d'où viens-tu, quel est ton parcours ? Explique-nous ce qui t'a un moment dans ta carrière professionnelle ou dans ton cheminement personnel poussé à découvrir tous ces outils tels que l'EFT.
Donc en fait je suis née dans une famille dans l'est de la France, d'un père d'origine russe et d'une mère d'origine polonaise, gitane polonaise. Et mon père était industriel et normalement, j'aurais dû reprendre les sociétés. Et puis, j'ai eu un très grave problème en revenant de Lille. Je me suis retrouvée avec le bras gauche qui ne fonctionnait plus. Et j'étais sur l'autoroute. J'étais en 4x4 et j'étais sur l'autoroute. Et quand j'ai ressenti ça, j'ai eu très, très peur. Et je me suis arrêtée sur le bas-côté et je me suis dit, c'est quand même étrange. J'avais globalement 18 ans et je me suis dit, c'est vraiment bizarre de m'être cassé le bras comme ça en roulant. Et quand je suis arrivée le soir, j'avais un ami plus âgé, je lui ai dit, c'est bizarre, je me suis cassé le bras en roulant, c'est étrange. Mais dans la soirée, je me suis cassé le deuxième bras. Et je me suis dit, vraiment, c'est pas une bonne journée, je vais aller me coucher. Hein. Ça va aller mieux demain. Quand je me suis réveillée le lendemain, j'étais une poupée de chiffon. J'avais les quatre membres paralysés. Ça m'a donné la possibilité de pas du tout travailler dans les sociétés de mon père. Et je pense, je sais d'ailleurs avec le recul que ça a été le moyen pour ma tête de dire que j'avais pas envie de cette contrainte-là et que je ne savais pas comment dire non. Mais pour autant, il y avait des vraies lésions. J'ai été opérée à la salpêtrière. J'ai mis 10 ans à m'en sortir. Et puis après, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Et quand je suis rentrée dans les thérapies brèves, j'ai fait un gros cursus d'hypnose, de PNL, de programmation neurolinguistique, de PNL, de toutes les techniques qui arrivaient des États-Unis, qui étaient à la pointe du progrès, de l'EMDR. Il y avait l'EFT là-dedans, mais qui était un parent pauvre. En fait, c'était quelque chose qu'on ne considérait pas trop et un peu ridicule pour nous. Et qui étions des grands de la thérapie rêve. Et puis j'ai divorcé en 2006 et là je me suis absolument effondrée et je n'arrivais pas à faire autre chose qu'à pleurer. Et je me suis dit, vraiment j'ai cherché tout ce qui était possible, que ce soit l'hypnose, enfin, j'ai tout cherché. Et puis à un moment je me suis rappelée de cette technique bizarre et je me suis dit, bon, si j'allais voir là-dedans, mais franchement c'était comme si je m'étais dit, je vais peut-être prendre une aspirine, j'y croyais pas plus que ça. Et j'ai commencé à tapoter et là il s'est passé vraiment quelque chose de miraculeux qui fait que j'ai pu tout d'un coup sortir la tête de l'eau progressivement. Et cet été-là, puisque tout ça s'était passé au début de l'année 2006, cet été-là, je partais avec une amie en vacances, des amis en vacances, dont une amie qui était alcoolique, qui ne me l'avait pas dit, qui ne le reconnaissait d'ailleurs pas, qui buvait énormément. Et puis quand je l'ai vue boire comme ça, je lui ai dit, écoute, c'est pas possible. En même temps, je suis en repos, je ne veux pas travailler. Je vais donc t'enregistrer des audios. Et je lui ai enregistré mes premiers audios d'EFT sur iPhone, des séquences en lui disant, écoute, travaille tous les jours et tu devrais avoir des résultats. Elle a eu des résultats tellement incroyables pendant cette semaine-là. avec si peu de contraintes pour arrêter l'alcool. Et tu sais que l'alcool est une addiction terrible, surtout dans ce contexte festif. Mais on était plus loin, on était vraiment très loin de la fête au niveau de l'alcool. Que quand je suis revenue en septembre, là, j'ai dit, je l'intègre maintenant à ma pratique thérapeutique. Donc l'EFT est devenu une pratique. J'ai ensuite fait une formation avec Caroline Dubois à Bruxelles. J'ai fait tous les niveaux de EFT et je continuais à travailler aussi avec tout ce que Gary Craig publiait. Et j'ai évolué dans ma pratique jusqu'à finalement tapoter sur de moins en moins de points pour ne tapoter que sur un seul point qui est le thymus, qui est donc ce point au milieu de la poitrine qui est un lieu de charge émotionnelle très important. Et je me suis rendu compte que les résultats étaient au moins identiques. Et d'ailleurs, en médecine chinoise, c'est un point très douloureux qui correspond au cœur. Et ce point-là, quand on appuie dessus, on ne peut pas le rater, on ne se sent pas extrêmement confort, on a l'impression qu'on va passer à travers notre poitrine. Eh bien, ce point-là, en fait, va décharger émotionnellement des tas de choses. Et si on tapote en répétant certaines phrases et des phrases d'un thérapeute, eh bien, ça va changer beaucoup de choses. Voilà.
Non, mais rien que de le toucher, là, en t'écoutant parler. Et puis, c'est ce que je t'évoquais aussi quand on a pris rendez-vous pour cette émission. C'est que quand j'ai reçu le livre, bah, comme ça, instinctivement, j'ai commencé à le toucher. Et, wow, je me suis pas sentie bien du tout.
On sent un truc immédiatement, on se dit, ah ouais, c'est vraiment là, quoi.
Donc ce point, malgré tous les autres points d'acupuncture qu'on peut stimuler avec l'EFT, et évidemment, donc pour ceux qui découvrent l'EFT, c'est l'idée de stimuler des points d'acupuncture, mais d'y ajouter la récitation d'affirmations. Souvent, je disais positives, mais elles ne sont pas toujours positives.
Non. En fait, elles peuvent être... On va démarrer par un état des lieux qui est négatif, forcément, parce que si vous voulez faire des travaux dans une maison et que vous ne vous dites pas, tiens, aux ouvriers, ça se passe dans la cuisine parce qu'elle est complètement délabrée, on ne pourra pas faire de travaux. Donc, on va toujours démarrer par ce qui se passe, même si je suis horriblement angoissée, même si ça ne va pas du tout bien dans ma vie, même si je me sens horriblement dépressive, etc. À ce moment-là, on va d'abord faire un état des lieux de ce qui se passe. Et il faut toujours démarrer par un état des lieux de ce qui se passe. Donc, même si, le même si, ça veut dire même si bah, je m'aime profondément et complètement, même si bah, je m'accepte quand même. Et là, on va démarrer des phrases positives progressivement jusqu'à des phrases complètement positives. Parce qu'autrement, le conscient va dire, mais de quoi tu parles, quoi ? Je ne me sens pas bien du tout, ça ne va pas bien, non, je ne suis pas du tout zen. Donc, on va toujours démarrer d'une affirmation négative. Voilà, ça s'appelle, j'ai un trou de mémoire, ça s'appelle comment ? L'inversion psychologique.
Alors, est-ce que la stimulation justement de ce point, le thymus, c'est venu toi presque intuitivement d'avoir envie de tapoter davantage ce point ? C'est venu dans l'expérience ou c'est venu aussi parce que les dernières recherches montrent que ce point précisément permet de décharger beaucoup d'émotions refoulées ?
Alors, il y a eu des articles qui ont été écrits sur ce point, ça c'est une chose. Hein. Et puis, j'ai travaillé longtemps avec quelqu'un qui est en médecine chinoise, donc je savais que ce point était extrêmement chargé. Et puis après, ça a été l'expérience. C'est-à-dire que très naturellement, en consultation, le fait de tapoter un seul point faisait que j'étais plus concentrée. Les gens n'avaient pas besoin de chercher les points et se demander où ils étaient. Donc, ils étaient aussi plus concentrés. Et puis, ça marchait pareil, quoi. Ça marchait pareil.
Est-ce que tu as délaissé justement toutes ces thérapies brèves pour lesquelles tu t'es passionnée pendant un temps pour aujourd'hui te consacrer à l'EFT ou est-ce que c'est toute cette boîte à outils qui t'accompagne au quotidien ?
C'est toute la boîte à outils qui m'accompagne. Je disais tout à l'heure que je réintroduis de plus en plus l'hypnose en consultation, les visualisations, l'hypnose, mais aussi de MDR, mais aussi la programmation neurolinguistique qui est une certaine façon de parler et comprendre le monde, etc. Il y a tant et tant d'outils que j'ai accumulés à travers toutes ces années, toutes ces formations. Tout ça, ça fait partie de moi et ça fait partie de ce que je peux donner à la personne qui est en face. Parce qu'il faut une adaptation permanente et puis il faut surprendre l'inconscient de l'autre. Ou si on passe par la même porte systématiquement, de la même façon, on va être bloqué, immédiatement bloqué. Donc il faut tout le temps surprendre, passer par ailleurs et... Parce que l'objectif, c'est quand même, en dehors de toute technique, que la personne qui vient nous consulter aille très bien à la sortie.
Alors, je vais revenir sur ce que tu me disais par rapport à cet ouvrage. Je disais, est-ce que finalement, ce livre te ressemble ? Et tu me disais, oui, il me ressemble, mais la Sarah d'il y a un an, puisqu'elle a déjà évolué. Ce qui est intéressant quand tu nous racontes un petit peu dans ta pratique ce cheminement, c'est que tu avais déjà des outils, des cordes à ton arc, mais un chagrin d'amour t'a ouvert à l'EFT. Donc, est-ce que finalement, même un thérapeute sur son chemin, parce qu'il rencontre encore des difficultés, et ça, c'est la vie, malgré ce qu'on pourrait penser, elle n'est pas linéaire, elle a encore ses hauts et ses bas. Est-ce que c'est ce qui fait qu'un thérapeute continue d'évoluer ? De se former, d'acquérir de nouveaux outils aussi et avant tout pour lui-même.
Moi, je crois que d'abord, avant d'être thérapeute, on est un être humain. et qu'en tant qu'être humain, on reçoit un autre être humain. Et évidemment, il est souhaitable que la problématique que cette personne va nous proposer, on se sente bien avec. Et si on ne se sent pas bien avec, il faut arrêter la consultation. Ça veut dire qu'on ne va pas être capable de la gérer. On n'est pas Dieu. Il y a des gens avec lesquels il n'y aura pas assez d'empathie ou simplement le sujet va être trop sensible pour nous. Je me souviens que pendant très longtemps, c'était compliqué pour moi d'accompagner des gens qui avaient des cancers digestifs, par exemple. J'étais très sensible à ça. Mon grand-père étant mort d'un cancer digestif, en ayant vu beaucoup autour de moi, c'était quelque chose qui était très sensible. Il a fallu que je sois libre de ça. Ou bien, j'en sais rien, il y avait certaines maladies, puisque j'accompagne beaucoup de gens dans des stades très avancés. Il y avait des gens, c'était trop compliqué, ou j'en sais rien, le pervers, ça a été compliqué à l'époque où j'étais pas claire avec ça. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'être humain, ben, il y a cette progression. Et puis, tous ces outils qu'on se donne à soi-même. Erickson, qui était donc à l'origine de toutes les thérapies brèves, Milton Erickson, était ce magicien incroyable parce qu'il fallait qu'il utilise l'hypnose ericksonienne pour lui, et puisqu'il souffrait tellement qu'il s'est demandé comment il allait s'en sortir. Et je crois, en tout cas, en ce qui me concerne, je pense qu'un très bon thérapeute est quelqu'un qui s'est donné tous les moyens et qui se donne en permanence tous les moyens de progresser. C'est pour ça que je disais, Sarah d'il y a un an, évidemment, elle est très loin derrière moi. Et je suis peut-être plus proche déjà de Sarah dans un an. En tous les cas, je suis bien au milieu du trajet et ça va continuer. Et probablement, d'autres outils viendront encore.
Si tu me le permets, j'ai envie de revenir sur cette mésaventure de paralysie qui t'est arrivée à 18 ans. Est-ce que selon toi, la cause est aussi due à un émotionnel refoulé, puisque à ce moment-là dans ta vie, tu expliquais qu'on voulait te faire aller vers un métier qui n'était pas fait pour
toi. Je pense que, en fait, notre corps, c'est la somatisation. On va retrouver des techniques comme NERTI, là, d'ailleurs, là-dedans. Hein. Je suis formée en NERTI aussi, donc qui est nettoyage émotionnel, mais dans le corps, cette fois-ci. On va somatiser, donc on va dire à travers notre corps physique des émotions qu'on ne peut pas dire, évidemment, avec des paroles. Et à l'époque, je ne pouvais pas dire non, je ne savais pas dire non. Donc finalement, cette compression de moelle épinière sur plusieurs étages, cette opération qui se passe pas bien, le fait que la moelle épinière flambe, il me fallait beaucoup de prétextes pour permettre que je sache dire non, avec des vrais prétextes. D'ailleurs, je me souviens avoir téléphoné à mon père et lui dire « C'est vraiment dommage, je ne pourrais pas travailler pour toi, je suis paralysée. » Mais j'étais pas du tout triste. C'était vraiment une liberté. Mais après, il a fallu grandir un peu pour m'en sortir 10 ans plus tard. Et c'était compliqué. Mais je pense que tous les événements qui arrivent dans notre vie sont un prétexte de ne pas vivre quelque chose. Et émotionnellement, à chaque fois, il s'agit de grandir et encore, et grandir et avoir cette extrême bienveillance vis-à-vis de soi et finir par se vouloir du bien. Et ça, c'est tout un projet, se vouloir du bien.
En sachant se positionner, parce qu'aujourd'hui, c'est plus simple de savoir dire non autant que oui. Hein. Il y a des gens qui ont du mal à dire oui, c'est un autre problème.
C'est vrai. Aujourd'hui, oui, je suis très loin de tout ça, c'est sûr. Aujourd'hui, j'ai une grande bienveillance vis-à-vis de moi-même et je prends soin de moi. Donc, je peux prendre soin des autres très différemment. Et je pense qu'aujourd'hui, la qualité de mon travail, c'est d'amener l'autre à cette liberté d'exister, à cette liberté de choix, à cette liberté de vie, à lui donner tous les outils, l'EFT et beaucoup d'autres outils pour permettre à chacun d'être vraiment la meilleure version de soi-même. Et c'est pas un dicton commercial, c'est vraiment ce que je ressens profondément. Et je vois beaucoup d'ados, pareil, où c'est le projet, c'est de leur permettre d'être responsables de leur vie. Et ils captent tout de suite, ils vont très vite, quoi. Ils comprennent et sortir du rôle de sauveteur, même en tant que thérapeute. Hein, j'ai travaillé avec le docteur Goulen de la méthode de Ho'oponopono, de je t'aime, je suis désolée, pardon, merci. Où vraiment, la compréhension du thérapeute, c'est que si nous rencontrons quelque chose, c'est qu'il y a un écho en nous, parce qu'autrement, on ne le rencontrerait pas. Et qu'il ne s'agit pas de soigner l'autre de ce qui existe, mais de soigner la fréquence que nous avons en nous, qui est porteuse finalement de la problématique que notre patient apporte. Donc ça, c'est un chapitre un petit peu plus compliqué, mais voilà, toujours est-il que le résultat est là. Et c'est ça, en fait, pour moi, le feedback, c'est quel est le résultat ? Qu'est-ce qui se passe après dans la vie de mes patients ?
Et si on n'a plus rien à bosser, on n'a plus de patients ?
Ben, en fait, je crois que peut-être que si on va très bien, on a encore plus les moyens de transmettre à l'autre et peut-être de sortir du deux et aller plus vers le groupe. J'étais à la conférence des cartels samedi au Grand Rex. Mm-hmm. C'était très intéressant et on voit bien qu'on n'est plus dans le face-à-face, quoi. On est dans le grand groupe. Mais c'est les mêmes messages, exactement les mêmes messages, mais c'est le média est différent.
Est-ce que c'est ce que tu proposes aujourd'hui aussi? J'imagine des conférences, d'avoir des groupes de personnes.
C'est ça, en fait, j'ai des ateliers, j'ai fait des ateliers beaucoup plus grands et aujourd'hui j'ai des ateliers d'une quinzaine de personnes. Le prochain, c'est le 30 septembre sur la loi de vibration, comprendre comment ça fonctionne, la loi qu'on appelle plutôt la loi d'attraction, mais en fait, c'est ce qu'on vibre, qu'on vit. Hein, on regarde l'état de ce qu'on vit et on sait ce qu'on pense. C'est exactement dans ce sens-là et non pas dans l'inverse. C'est pas ce qu'on pense qu'on va produire, mais on regarde ce qu'on est en train de vivre et on sait ce que l'on vibre. Voilà. Donc déjà, base, ça va beaucoup plus vite. Et bon, ça, c'est le prochain atelier. Il y avait la dépendance émotionnelle il y a 3 semaines où Stéphanie était là. Il va y avoir des conférences. Là, demain, je vois quelqu'un parce qu'on a envie d'organiser des grands groupes de travail. Je vais de plus en plus vers le groupe, là, c'est sûr.
La dépendance émotionnelle, est-ce que ça rejoint la dépendance affective?
C'est la même. C'est la même chose.
Et il y a du boulot sur ce terrain-là?
Il y a du boulot sur tous les terrains. Là, je disais à Stéphanie tout à l'heure que je vais faire un atelier sur le pervers, sur le burn-out, sur toutes les problématiques actuelles de notre humain.
Tous ces jeux de pouvoir.
C'est ça, on les a à plein, quoi. Et il y a vraiment un positionnement qui va autoriser une forme de liberté. Une forme de liberté, sortir de la pression, de ce qui est glissé dans le couloir en dehors de tout témoin et qui autorise toutes les pressions. Je vois beaucoup ça en société, dans les sociétés. Le pouvoir vient de prendre quelqu'un à part et le menacer, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais c'est passionnant d'amener les gens à la liberté. C'est vraiment une passion pour moi, ça.
J'ai trop envie de faire un peu intervenir Stéphanie. Je ne sais pas s'il y a quelque chose sur lequel tu as envie de réagir. Est-ce que toi, l'EFT, cette rencontre avec cet ouvrage, ça t'a permis aussi de faire du chemin en toi-même, avec toi-même?
En fait, oui, parce que moi, au départ, l'EFT, j'avais essayé toute seule sur Internet et tout. Et en fait, je trouvais ça bizarre parce que je répétais des phrases, mais en fait, je n'avais pas compris qu'il y avait l'évolution vers le positif. Et donc, je répétais des choses négatives. Et à la fin, je disais, mais je m'aime et je me pardonne. Et il y a une partie de moi qui me disait, mais en fait, j'ancre le fait de dire « je suis angoissée, hein, mais je m'aime et je me pardonne. » Mais je répète « je suis angoissée. » Et je me disais « mais ça n'a pas de sens, ce truc-là. » Et quand j'ai rencontré Sarah, je lui ai dit, et elle me dit « mais tu fais comme beaucoup de gens qui n'ont pas compris au niveau des phrases qu'il faut évoluer. Oui. » Donc, une fois qu'elle m'a bien expliqué la pratique, effectivement, j'ai vu comment on peut le faire. Mais c'est vrai que je pense qu'au départ, c'est bien d'avoir un thérapeute qui nous guide. Et ensuite, on peut le faire tout seul. Mais ou avec le livre, en fait, voilà, ça donne. Il y a des exemples de rondes et de phrases à répéter où ça donne vraiment bien la mécanique. Et après, on peut pratiquer. Mais au point de départ, voilà, moi, en tout cas, ça a été utile que je vois comment elle travaille. Et sachant qu'en plus, il y a d'autres outils que l'EFT, donc c'est toujours intéressant, en fait. Moi, j'ai l'impression de connaître, mais comme beaucoup de gens, faire plein d'ateliers de développement personnel et tout, de connaître beaucoup de théories. Mais après, il faut passer à la pratique. Et on a beau savoir avoir lu plein de livres. Quand on est tout seul face à la problématique, on croit qu'on connaît tout, qu'on maîtrise, qu'on va régler. Et en fait, on ne règle rien du tout. Et il y a des fois, il faut aussi savoir se faire aider et aller voir des gens qui nous tendent la main pour faire ce travail sur nous que tout seul, on n'arrive pas forcément à faire. Et c'est pour ça que j'aime bien, c'est bien les livres, etc. Mais il faut aussi savoir demander de l'aide et avoir des gens qui ouvrent des portes. Et moi, je sais qu'avec Sarah, sur certains domaines que je pensais pouvoir régler toute seule ou autre, c'est vrai que je pense que ça a accéléré les résultats et les bénéfices parce que c'est vrai que tout seul, des fois, on connaît la problématique. Mais on reproduit, on croit qu'on a réglé, puis on reproduit. Et à un moment donné, il faut dire, bon, OK, si je n'arrive pas toute seule, il faut peut-être aller voir quelqu'un, quoi.
Puis l'inconscient a ses résistances.
Ouais.
J'allais dire, c'est ce qui lui confère son charme ou pas. Mais on a des résistances intérieures. Et je pense que parfois, l'inconscient, s'il se maintient dans ce qu'il connaît, ça l'arrange aussi. Donc, c'est ne pas être forcément tributaire de ses fonctionnements inconscients perso et puis d'être accompagné. Je trouve que c'est même nécessaire sur le chemin.
Parce que c'est vrai que tout seul, des fois, on est un peu en vase clos. Puis moi, en fait, vu que je suis journaliste, je travaille beaucoup toute seule, j'écris des livres toute seule, c'est bien aussi de travailler aussi en équipe et de s'ouvrir sur les autres. Et ça fait du bien, en fait, de partager.
Ouais. En fait, il y a une vraie réalité avec la zone de confort. La zone de confort, ça serait un petit peu comme ce tapis là sur la table qui délimiterait un carré ou un rectangle. C'est toutes nos habitudes, c'est ce que l'on est habitué à penser, les gens qu'on fréquente, les lieux où on va, les vacances où on va, la façon dont on mange, bref, ce qu'on fait de façon quotidienne. Et si on veut changer quelque chose, il va falloir sortir de notre zone de confort parce que tout ce qui est nouveau est en dehors de notre zone de confort. Or, si notre vie ne nous convient pas, on ne peut pas faire du nouveau avec ce qui est à l'intérieur de cette zone-là. Il va falloir en sortir. Et pour en sortir, il va falloir rencontrer des gens qui pensent différemment. Il va falloir aller dans des lieux où on n'est pas habitué à aller, il va falloir faire des afters dans d'autres quartiers, il va falloir s'habiller différemment, manger autrement, faire n'importe quoi qui va nous sortir de nos habitudes, se confronter à des gens qui ne pensent pas comme nous, et ce n'est pas si simple, qui ont d'autres religions, qui vont nous contester. Et tout d'un coup, on va ressortir de cet inconfort en étant différent. On a stretché, on a agrandi littéralement ce carré, et tout d'un coup, il y a du nouveau qui va rentrer, et dans ce nouveau, il y a plein de solutions.
Je ne sais plus, je crois que c'est Einstein qui disait qu'on ne peut pas s'attendre à un résultat différent en faisant toujours la même chose.
C'est ça.
Donc l'idée, c'est même pour attirer à soi ou même créer des vibrations différentes, c'est de faire les choses différemment, mais ça peut commencer par des petites choses. Si les gens qui nous écoutent là sont effrayés en se disant « mais moi j'ai tellement peur de changer ce qui sont mes habitudes et ma zone de confort », mais on peut y aller petit pas par petit pas, et puis accompagné par des thérapeutes.
Oui, et puis même commencer par, j'en sais rien, manger avec quelqu'un avec qui vous n'auriez pas déjeuné. Amener des petits pains le matin dans votre bureau et voir ce qui se passe, parce qu'il va se passer quelque chose. Changer vos habitudes, même de façon très subtile. Vous allez écarter tout doucement, stretcher encore et encore et autoriser que vraiment des événements nouveaux arrivent. Je vois ça tout le temps.
Alors j'aimerais qu'on reparle de cet exemple de dépendance, puisqu'on parle énormément, on est dans une société, là on parlait de la dépendance affective, émotionnelle, mais cet ami que tu as accompagné à travers des protocoles de EFT, c'est-à-dire qu'on comprend bien que la dépendance elle est quand même très émotionnelle, mais là du coup ça l'a vraiment, alors peut-être que toi tu n'avais pas besoin de le prouver, mais ça le prouve réellement quand tu l'as accompagné sur cette question de l'alcool.
Ça m'avait étonnée en fait. La rapidité m'a étonnée. Je n'ai pas douté une seconde que ça marcherait, mais je ne m'étais pas... D'abord, j'étais vraiment en vacances, très paresseuse, et je n'avais pas du tout envie de travailler. Donc, quand j'ai fait ça, je me suis dit, ça va marcher, de toute façon, ça va marcher, mais en combien de temps ? Aucune idée. Et je n'avais pas envisagé que ça puisse être aussi rapide. Ça avait été sidérant, vraiment. En une semaine, cette personne a changé et a définitivement changé. Puisque j'ai vu encore des années après, et aujourd'hui, on s'est perdu de vue, mais son rapport à l'alcool était complètement, complètement différent. Et après, je l'ai vu sur beaucoup d'addictions, beaucoup de phobies. Il y a vraiment une modification très profonde, sans douleur, parce que dans l'EFT, il y a ça qui est magique. Moi, j'utilise l'EFT un petit peu comme le moyen, quand on fait des tatouages, on met un liquide qui est anesthésique pour ne pas avoir mal. Ben, quand j'utilise l'EFT, j'ai l'impression de mettre un anesthésique sur l'âme pour que la personne n'ait pas mal. Elle va répéter les phrases que je vais dire, il va se passer quelque chose, son âme s'adoucit. Tout d'un coup, la violence de ce qu'elle a vécu s'adoucit. Et tout devient beaucoup plus simple. Et je le vois vraiment avec des gens qui arrivent et qui sont très réfractaires, très hostiles à la limite. Et tout d'un coup, tout s'adoucit.
Même si ça passe en effet par un moment l'expression des émotions, et quand parfois elles ont été refoulées pendant des années, est-ce que ça peut, entre guillemets, couler à flot et...
Pas en EFT. En EFT, en fait, il va y avoir une modification comme de la structure interne. C'est comme si on bougeait la structure d'un individu et qu'on l'amène très, très, très doucement et progressivement à changer son focus, à voir la pièce sous un autre angle. Et donc, il n'y a pas de violence là-dedans. On voit juste les événements, parce que ce n'est jamais l'événement qui pose un problème. C'est notre posture par rapport à l'événement, d'accord ? Et forcément, en changeant notre posture par rapport à l'événement, l'événement a bel et bien existé. Mais pour autant, comme on ne le voit plus de la même façon, alors tout d'un coup, on est libre.
Donc, tout ce qui est souffrance devient un tremplin d'évolution ?
Ça, j'en suis convaincue, même si je suis aussi convaincue qu'on peut évoluer sans passer par la souffrance, forcément. On peut aussi passer par le bonheur. Mais l'être humain est un petit peu têtu, et pour remettre en question cette fichue zone de confort, c'est-à-dire décider de changer des choses dans sa vie, souvent, il va avoir besoin de passer par la souffrance. Mais le bonheur, on sait que dans la passion amoureuse, par exemple, c'est un lieu de métamorphose extraordinaire. Mmh. Et la métamorphose de l'être humain, on va la voir à travers le deuil, on va la voir à travers la passion amoureuse, ou on va la voir à travers un vrai travail thérapeutique. C'est les trois grands axes de transformation. Donc, on pourrait choisir la passion amoureuse ou un travail thérapeutique. On n'est pas obligé de se prendre la mort en pleine face ou la maladie grave. Je suis un mauvais exemple pour ça, j'ai choisi ça moi. Mais voilà, je ne savais pas.
Oui, mais en même temps, tu es devenue thérapeute, donc bon, ça avait du sens.
C'est ça. Finalement.
Bon, alors ce fabuleux ouvrage, évidemment, chers auditeurs, on vous invite à vous le procurer le plus rapidement possible. Donc EFT, un seul point pour tout soigner, aux éditions Courrier du Livre. Voilà, c'est une co-création féminine. Voilà, autour d'un ouvrage qui accompagne les gens à découvrir l'EFT. À qui s'adresse finalement cet ouvrage? À des gens qui sont déjà un peu experts, à des gens qui découvrent?
À des gens qui vont pas forcément complètement bien dans leur vie, qui veulent avoir accès à un ouvrage qui va leur donner la possibilité d'aller directement au chapitre qui les concerne, la santé, le miracle, la rencontre amoureuse. En fait, on va exactement à l'endroit qui nous concerne dans notre vie. Et puis, on va retrouver des rondes, des exemples, tout ce qu'on a compris au niveau neuronal ces dernières années. Voilà comment ça a évolué depuis ces 20 dernières années, parce que tout a changé. L'idée, c'est de donner beaucoup d'exemples. J'ai donné des exemples de ma vie, des exemples de patients, c'est illustré tout le temps. Et puis, beaucoup, beaucoup de séquences écrites. Des séquences complètes écrites.
Donc, c'est un livre aussi à expérimenter, qui pousse vraiment faire vivre cet outil dans son rapport intérieur.
C'est un livre de chevet, en fait. C'est un livre de chevet. Il y a une partie sur la gratitude, sur le pardon, sur tant et tant de problématiques.
Donc, deux sites à retenir, psyenligne.info.
Info comme information, oui.
Donc, c'est ça, c'est ton site pour, j'imagine, prendre rendez-vous.
Il y a plein rendez-vous. De tapping en ligne. Okay. Aujourd'hui, il doit y avoir plus de 400 vidéos.
Donc, ça, la chaîne YouTube, ouais. Tu as une chaîne YouTube aujourd'hui, où tu proposes des vidéos.
Ça fait 3 ans. Et là, j'ai la minute de Sarah que je propose tous les jours, qui est en 2-3 minutes, je vais traiter un thème. Ce matin, c'était pour être guidée, mais ça peut traiter de n'importe quel sujet parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, je me suis dit, si on fait un starter dans la journée avec quelque chose qui va nous mettre en dynamique, ça va marcher. Et puis, sur le site, on va trouver des tappings beaucoup plus construits, beaucoup plus longs sur énormément, énormément de sujets. Il y en a une grande partie qui sont en accès libre sur YouTube et d'autres qui sont à un prix très modique ou en pack ou sur la chaîne. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de problématiques évoquées.
Donc, on te suit aussi, j'imagine, sur les réseaux sociaux.
Oui, absolument, oui, sur Facebook. Sur mon profil personnel, honnêtement, je suis à 5000, je ne peux pas. Je dégraisse régulièrement, mais je ne peux pas. Mais j'ai créé une page Facebook sur l'EFT, un seul point pour tout soigner. Et puis, sur Sarah Frachon, sur une page aussi, qui permet aux gens de me suivre.
Génial. Stéphanie, on te retrouve, toi, pour ce média, Madame Bien-être. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais nous donner l'adresse du site internet?
Madamebien-être.com,
tout simplement.
Tout simplement, tout attaché.
Donc, on peut suivre via ce média tes rencontres avec les thérapeutes, tes articles.
Voilà, il y a des articles sur tout ce qui est santé, forme, nutrition, bien-être et beaucoup de développement personnel. Et j'ai aussi ma chaîne YouTube avec des émissions à thème « Pourquoi pas vous ?» où, en fait, j'interview des gens qui ont réalisé leurs rêves, c'est-à-dire qui ont osé quitter... ce pourquoi on les avait conditionnés, comme par exemple Sarah avec son papa, et qui ont tout plaqué pour aller sur leur mission de vie. Donc voilà, j'adore rencontrer ces gens-là et qui nous racontent un peu leur parcours. Magnifique. Pour pouvoir s'en inspirer et donner de la force et du courage à ceux qui sont qui hésitent, qui ont envie, mais qui ont peur.
Donc une bonne dose d'inspiration.
Voilà, exactement.
Donc on tape Stéphanie Zetoun, on tombe sur ta chaîne YouTube.
C'est Madame Bien-être.
Madame Bien-être.
Et sinon, sur Stéphanie Zetoun sur Facebook, il y a mes pages.
Merci à toutes les deux d'avoir été présentes. Ça embaume le parfum féminin. C'est une ambiance. je vois ton sourire depuis tout à l'heure, Sarah. Et merci pour ça parce que ça fait du bien. Ça réchauffe le cœur. J'ai passé un très bon moment en votre compagnie.
Merci beaucoup.
À bientôt. Belle journée à tous.